Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Donc, on démarre par un jeu.
Ah oui.
Pour savoir qui lance l'émission entre nous trois, on fait quoi?
Un titre de film.
Un titre de film?
Avec Julie nous donne un mot.
Il faut qu'il y ait Julie dedans. Julie à tout prix.
Non, casse.
un casse à New York.
Ça n'existe pas.
Si, si, si. Un casse à New York, c'est avec Ben Stiller et Eddie Murphy.
Ok, okay.
Alors, un autre mot.
Alors, père. Mon père, c'est l'héros. L'autre.
Juliette. Oui.
Parfait. Okay.
Et François, t'as perdu. C'est toi qui lance l'émission.
Ce qui compte, c'est que François perde.
C'est toujours le. La fabrique. Ah bah mais tu fais perdre, alors t'as des lancements pourris.
Vas-y, vas-y.
Le podcast consacré à la création avec Juliette Arnaud, Ramzi Assadi.
Bonjour.
Et François Audouin. Et bonjour, aujourd'hui François. Notre invité, Julie Bargeton.
Bonjour.
Bonjour Julie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, ce que François oublie de dire à chaque fois.
Ouais.
Saison 2, épisode 7. Déjà.
Voilà. Et pourquoi c'est pas toi qui fais l'intro, puisque en fait t'as déjà tout écrit dans ta tête.
Oui. Avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette.
Bonjour Ramzi.
Juliette, on rappelle un peu.
Non, allez.
On rappelle. Pour ceux qui connaissent pas Julie, on
Juliette,
rappelle.
Voilà. Elle te connaît pas peut-être. Ouais. Donc okay. Juliette, comédienne, scénariste, autrice, chroniqueuse à la radio,
féministe.
Ouais.
Je t'emmerde.
Mangeuse.
Et plein d'autres choses encore. François Audouin, bonjour.
Bonjour.
François, alors maintenant, comment le présenter?
Ah, c'est bien le problème.
Alors, il y a trop de choses.
Comédien, scénariste, réalisateur radio et maintenant chanteur. Quand le podcast sera diffusé, tu auras déjà fait la maroquinerie.
Oh,
donc ça s'est bien passé?
Écoute, j'ose pas trop en parler.
Il y a du bon et il y a du moins bon.
On peut faire les deux versions bon. Si tu veux. On fait une version, okay. Ça s'est bien passé.
Putain, c'était génial.
C'était ouais.
Plus, ouais, là, en plus, le public en délire.
Okay.
Standing ovation et tout?
Ah ouais.
Okay.
Ils m'ont même demandé de faire un rappel après Johnny Montreuil.
L'autre version?
On fait la deuxième version.
Alors, ils ont pas du tout compris ce qui se passait.
Ils sont pas rentrés dans ton univers?
Pas trop.
Ah, mais il y avait beaucoup d'énergie.
Oui, mais en plus, comme c'est des rockers, j'ai failli me battre. Ils ont mal pris le truc.
D'accord.
Et donc voilà, je pense qu'on peut parler des plus gros beats de l'histoire. Du rock.
Et notre invitée,
Julie Bargeton.
Julie.
Bonjour.
Alors Julie, c'est une amie de François.
Oui.
Donc François, est-ce que tu peux nous la présenter peut-être en deux, trois mots?
C'est Julie quoi.
Pour ceux qui la connaissent.
On la connaît.
Pour ceux qui la connaissent pas.
Bah, qui ne la connaît pas déjà? Je suis désolé.
Beaucoup de monde.
Moi, je la connais très bien.
Avec ses fiches en A3. Il a imprimé en A3 les fiches. C'est un peu grand, Ramzi.
Alors,
donc, Julie Bargeton, comédienne, autrice, réalisatrice aussi.
Ouais, elle fait la mise en scène et bientôt réelle, voilà. Normalement. Stand-upeuse. Non, enfin, spectacle, oui. Seul en scène, c'est pas du stand-up, plutôt un spectacle où tu te racontes toi.
Bah oui, je sais plus, avec des personnages.
Ouais, des personnages, mais aussi. Qui est pas de la punchline pour de la punchline, qui a quand même un propos voilà, qui se raconte. C'est ton prisme aussi, c'est ta vision du féminisme par rapport à ton expérience, tes expériences de vie, les scènes que tu as pu vivre en vrai, que tu nous les remontes sur scène.
Celles qui sont inventées aussi.
Celles qui sont inventées aussi.
La création, justement, c'est de mélanger
les deux. Donc voilà, pluridisciplinaire.
D'accord. On a pu te voir dans quoi, pour ceux qui...
Sur scène, beaucoup. Là, j'ai mon spectacle qui est sur MyCanal en ce moment, qui s'appelle Woman is Coming. Je précise le titre parce que quand tu tapes Julie Bargeton, il n'y a rien qui sort.
C'est vrai?
Ah si, je l'ai fait moi. J'ai fait Julie Bargeton sur Studio Canal et sur l'appli et je tombe sur le spectacle.
Ah génial, parce qu'une fois, j'étais avec un réal, je lui dis oui, donc j'ai mon spectacle sur Canal Plus. Et il fait bah non, ça ne sortait pas. Et je lui ai dit donnez le titre et là, c'est sorti. Donc je me suis dit merde, ça doit m'être mal référencé. Ça faisait la meuf mytho, tu vois, c'était affreux.
Oui, il a peut-être mal écrit ton nom aussi.
Oui, il a peut-être écrit Sophie Bargeton.
Oui, voilà, qui est ma sœur, tu vois.
Ah ça?
Oui, voilà. Il tombe bien.
Ouais, écoute, je suis un peu médiocre.
Mais oui, donc sur le spectacle en ce moment. Et puis sinon, en tant qu'actrice, j'avais fait la série d'Ahmed Silla Access.
Ouais.
En tant que scénariste et comédienne, où je jouais la collègue raciste d'Ahmed. et la série de Simon Astier Visitors, qui d'accord, est en ce moment sur. Bon, on peut la voir, c'était une création Warner. Et on peut la voir donc sur HBO à l'étranger. Donc je me la raconte un peu. Mais sinon en France, c'est sur Amazon avec le pass Warner.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Très bien.
Et t'as créé deux web-séries. Enfin, non, une web-série.
Non, mais ça, oui, là. Non, vraiment.
Deux séries en fait.
Deux séries.
Une pour OCS.
Oui.
T'es,
Merci Julie.
Merci Julie.
Et oui, ce que les gens ont le plus vu, je pense que. Mais c'est parce que ça fait 10 ans, donc j'oublie. Mais mine de rien. Parce que là, du coup, j'étais actrice et aussi créatrice, autrice, tout ça dessus. Qui n'était pas une web série à la base, c'était une série télé, mais une chaîne obscure. Enfin, quand je dis obscure, je les remercie beaucoup, mais que c'était la TNT, donc c'est la naissance de Chérie 25. Et on avait fait un deal de pouvoir être un mois après la diff des épisodes sur YouTube. Et on a pu faire comme ça 15 millions de vues. Et c'est pour ça que tout le monde a pensé que c'était une web-série. Parce que les gens l'ont beaucoup plus vu sur YouTube qu'à la télé.
Forcément.
Qui s'appelait Roxane, la vie sexuelle de ma pote. Et qui était un petit peu une meuf. Il y avait un nouveau mec par épisode.
Juliette, je te laisse lancer la première question.
La première question. La première question, donc, comme c'est un podcast sur la création... on demande à nos invités qu'est-ce qui parce que ça a été cette question en fait, c'est l'origine de la raison pour laquelle on a voulu faire ce podcast, c'est qu'est-ce qui donne aux gens l'autorisation d'embrasser une carrière artistique. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est soi-même? Est-ce que c'est contre les autres, son environnement, là d'où on vient? Ou est-ce qu'au contraire c'est tout ouvert?
Est-ce que tu viens d'une famille artistique, enfin d'un domaine, qui travaille dans un domaine artistique ou non?
Alors pas du tout, j'ai ma maman qui était institutrice de maternelle et mon papa qui travaillait Air France, donc vraiment rien à voir. Mais en revanche,
la question se pose pleinement, qu'est-ce qui te donne à toi et à quel moment l'autorisation? Est-ce que c'est toi qui te la donne toute seule ou est-ce que c'est quelqu'un?
Alors, je crois vraiment que c'est assez horrible, le vieux cliché. Alors, quand j'étais petite, déjà.
Non, parce que ça vient
mais,
souvent de là.
Mais ouais, c'est, en primaire, déjà, je faisais des sketchs. Et les profs me foutaient dehors pour que j'aille préparer des sketchs pour qu'à la fin, je les fasse en CM1, je me souviens de ça. Donc, et ma maman, comme elle était quand même artiste peintre à côté, donc elle exposait pas du tout, mais vraiment pour elle, elle était un site à mi-temps, elle peignait beaucoup. Je pense qu'elle la création, elle m'a quand même, elle trouvait
elle
ça chouette. Elle m'a pas, mon père, il était là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait trop de bruit, cette gamine. Alors que ma maman, elle trouvait ça, elle disait, oh, c'est chouette, ah, tu veux que je t'aide pour des costumes. Donc j'avais l'appui de ma maman quand même.
Mais ça, j'entends bien, mais ça reste que c'est dans un cadre familial ou amical.
Et de loisirs, surtout.
Après, le moment où on se dit, on embrasse ça, on va essayer d'embrasser ça de manière professionnelle, donc potentiellement essayer d'en vivre, que ça fabriquer en gros un modèle économique pour que ça soit viable, ça se déclare quand et comment?
Alors, je pense que c'est quand même assez tôt. Tu sais que tu as envie de faire ça. Enfin, après, ça dépend tellement des gens, des parcours. Mais moi, ce qui me concerne, c'est quand j'étais en prépa HEC, en fait, à la base.
Oui, parce que voilà, c'est ce que j'ai dans ton CV en feuille A3. Il y a écrit que tu as fait une prépa HEC pour avoir un peu fréquenté le monde des prépas. C'est pas le...
Ah non. Ah, justement. Et j'étais à...
Surtout la prépa HEC. Enfin, c'est quand même, on le rappelle, une prépa particulièrement... Après, c'est facile, mais une fois qu'on y est, mais... Enfin, quand on a intégré
quand on a HEC,
une
grande école... De... Voilà. On se bourre la gueule. Mais, voilà. Mais quand on est en prépa, on morfle beaucoup. Non, puis surtout, c'était... Moi, à la limite, une prépa littéraire aurait été mieux pour moi. Mais prépa HEC, c'est vraiment le commerce pur. Ce qui n'a absolument... Mais j'étais complètement perdue. Vraiment, et puis comme je suis très sensible face aux injustices, quand on me parlait de l'économie par exemple de la Côte d'Ivoire, moi je disais oui, la France-Afrique, on me disait non, mais ta gueule, c'est pas du tout le sujet. Enfin, non, c'était compliqué. Et justement, j'ai une prof de français qui, elle, nous faisait lire des textes de théâtre.
À HEC ?
Ouais, en prépa. Ouais, parce qu'en prépa, en fait, il y a toutes les matières quand même. Et donc, cette prof m'avait fait lire une version de Médée. Vraiment hyper bien, où justement bah, c'est comme Jason, c'est quand même un gros bâtard, hein, parce qu'elle lui a, elle m'aidait, elle vieillit, elle lui a donné la jeunesse éternelle, donc il finit par la tromper et elle tue ses gosses. Elle est un petit peu excessive, mais quand même il y avait un vrai truc sur la vieillesse de la femme que je trouvais hyper intéressant. Et donc elle m'a fait lire comme ça devant toute la classe, et là je me suis reconnectée. J'avais fait du théâtre plus jeune, mais là ouais. Je me suis dit putain, c'est là que je vis et que je vibre, alors qu'avec les autres élèves, j'avais l'impression d'être pas du tout au bon endroit. Et j'ai été, à la fin de l'année, pour le bilan, j'ai été voir ma prof. Elle m'a dit, Julie, tu vois bien que tu vas être malheureuse. Et surtout, j'ai fait une simulation d'entretien d'embauche avec un mec que je remercierai toute ma vie, qui était à la com chez Danone. Tu fais, à la fin de ta... Enfin, j'avais un entretien avec un élève d'HEC, un ancien d'HEC, je ne sais plus, des profs, et un mec de la com de chez Danone. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il me dit, ouais, t'as des bons résultats, peut-être une des trois parisiennes, donc j'étais contente. Mais il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment concrètement? Je dis, ben moi, je veux créer, en fait. C'est pour ça. Je dis, ouais, mais je veux créer, alors peut-être le cinéma ou la pub, il y a de la création dans la pub. Je dis, et il me dit, alors je t'arrête tout de suite. En fait, si jamais tu fais l'essai, que c'est PHEC, que tu deviens justement quelqu'un, c'est toi qui vas financer les créas, mais tu ne créeras jamais. Et dis, moi, c'est ce que je voulais faire, et aujourd'hui, je paye le prix, et je le vis très très mal, et je veux pas que toi, tu gâches ta vie. Oh ! Et là, je suis sortie, là, parce que moi, j'arrivais pas à cet entretien pour partir. J'étais encore trop jeune, je me posais des questions. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, non, mais si t'es une artiste, faut y aller, hein.
Donc en fait, on peut dire qu'il y a deux personnes qui t'ont, chacun à leur manière, donné une autorisation. C'est cette prof de français et ce type qui te dit, qui te dresse le miroir cauchemar en te disant potentiellement c'est ça que tu vas devenir.
Ouais. Tu vas donner de l'argent en créa et tu vas et toi toute ta créativité dans le cul quoi. En gros, au mieux
dans le cul.
Et non mais c'est d'abord lui et ensuite ça m'a choquée et je me suis dit il a raison et j'ai été voir ma prof de français qui m'a dit. Tu vois bien que tu n'as rien à voir avec les autres élèves. tu vois bien qu'il y a un
c'est
problème.
C'est douloureux, ça, t'avais quel âge ?
J'avais 18 ans.
Ouais, c'est douloureux à 18 ans quand on te fait, quand quelqu'un te verbalise que tu n'es pas à ta place, quand tu viens de te démener, parce que rentrer en prépa, ça demande quand même...
C'était dur, hein, oui, c'était très dur. C'est... J'avais pas de vie, hein. J'étais au cinéma deux fois dans l'année. J'ai travaillé de 8h du matin à 2h du matin.
Voilà, c'est sans ça, vie. La vie d'un gamin en prépa, en tout cas une prépa HEC, c'est ça.
Ouais, c'est très dur.
Et les prépas littéraires, c'est bien pareil. Enfin, ouais. C'est violent. Et prépa Sciences Po, c'est pas...
Oui, j'imagine aussi.
C'est bien
aussi,
mignon aussi. Donc, t'as pas trop le temps et t'essayes désespérément d'être comme les autres. Et donc, c'est des moments violents, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te le dise assez jeune.
Et oui, ça a été une libération, finalement.
Ouais.
Mais pourquoi t'as embrassé cette... Parce qu'il faut avoir envie de faire prépa HEC. Comment t'arrives à prépa HEC?
Ah bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu... je savais pas trop quoi faire. Enfin, si je voulais faire du rap, bon. Et elle se trouve en prépa HEC. Tout était bien installé dans la tête à Julie. C'était parfait. Et j'avais une passion, mon mec et le rap à l'époque. Mais j'avais des très bons résultats scolaires.
Ah,
donc
voilà.
Quand t'es première de ta classe, on dit tu vas faire une prépa.
Eh ouais.
Et comme t'es bonne un peu partout, tu dis maths sup, maths spé... c'est comme une spécialité scientifique, prépa littéraire, canipocaine, ben voilà. Alors qu'à HEC, il y avait un peu de tout. Et comme moi, j'étais bonne un peu partout, ben voilà.
Ouais, moi,
c'était vraiment...
Je me suis retrouvée en prépa Sciences Po, à peu près pour les mêmes raisons.
Ben, voilà,
et toi, qu'est-ce qui t'a fait arrêter après...
La dépression, Ramzi, la dépression.
Ben, j'allais dire...
Est-ce qu'il y a eu un truc particulier
Moi, en fait, j'aurais dû, à l'âge, quand j'étais en prépa Sciences Po, je me souviens, ça, c'est un de mes pires souvenirs, mes rétrospectifs, pas sur le moment. C'est les choses, que, quand je me retourne sur mon passé, ça me crée des petites gouttes de sueur d'angoisse qui me prouvent à quel point on peut s'aveugler les uns les autres. Quand j'étais en prépa à Sciences Po, donc pareil, le même genre d'horaire... horrible ou c'est, on élève des poulets de compétition, quoi. Donc t'es ça en fait, t'es une pouliche de compétition. On te forme à ça, on te dit toute la journée que t'es l'élite. Ce qui n'est pas très très bon de dire à des gamins de 18 ans qui sont l'élite, ça n'a pas de sens, hein. Ce sont des enfants. Bref, et dans ma prépa, il y avait une petite meuf qui arrivait de Saône-et-Loire, une provinciale comme moi, qui s'appelait Marie. Et qui a commencé à se choper de l'eczéma de ouf. Et ça a commencé à envahir tout son corps. Enfin, au début, c'était une toute petite tache. Et elle est parvenue au deuxième trimestre. Je pense que si j'avais été centrée sur moi-même à cette époque-là, j'aurais appelé mes parents et je leur aurais dit ça va m'arriver. Ce qui est en train d'arriver à Marie va m'arriver et il faut que je m'arrête maintenant. Mais je n'ai pas eu ce recul-là parce qu'à 18 ans, en fait, de recul, on n'en a pas du tout, ni sur soi, ni sur rien. Et après, donc, ça m'a pété à la gueule un an plus tard.
Et comment ?
Eh ben, la dépression.
Mais comme beaucoup, c'est très commun. Hein. Mais ils sont graves. Par exemple, au niveau de l'humiliation, pour mettre un barème, j'ai eu 17 au bac en anglais. Bon, je sais pas comment d'ailleurs, ça c'est... Mais bon, parce que très mauvaise, mais bon, peu importe, j'ai eu 17 au bac en anglais, je suis arrivée en prépa, j'ai eu moins 3.
Ah
oui. Je sais pas si vous voyez, c'est pour expliquer la différence. Parce que tu passes de 17 à 11, ok, on te calme, mais là tu passes de 17 à moins 3. Donc c'est-à-dire que les meilleurs de la classe se retrouvent
t'as
des
perdu,
cancres.
T'as perdu 20 points.
Hein. Ouais, tu te rends compte et on te dit que t'es l'élite et en même temps t'es un peu une merde.
En fait, c'est exactement ce qu'on fait, c'est marrant, c'est exactement ce qu'on fait aux acteurs et aux actrices. Dès qu'ils sont un peu célèbres, on passe leur temps à leur dire qu'à la fois ils sont merveilleux et à les traiter comme de la merde.
Bah oui, il faut bien avoir le pouvoir sur eux.
Pour garder le pouvoir sur eux. Mais c'est vrai qu'en prépa, on te fait ça. On te dit que collectivement, tu es en route pour l'élite. Mmh. Tu es l'élite.
Ouais.
Vu les résultats que tu as eu au bac et ton dossier, blablabla. Bla, 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 bla. Et en même temps, on passe ton temps à te dire qu'il va falloir manger la tête des autres et écrabouiller les autres et que tu es une merde. Par rapport à un tel ou une telle, voilà, non, ça n'a aucun sens, en fait, ça n'a aucun sens.
Non, c'est
et
vrai.
Donc après
et après,
t'as basculé directement dans une... Tu t'es dit, je vais faire du théâtre.
Oui, donc j'ai été au cours Florent tout de suite, parce qu'à l'époque, c'était là où on allait.
Comme moi.
Voilà, cours Florent, et à côté, j'ai quand même fait une licence à Assas pour assurer mes parents, quand même, histoire d'eux.
Ah oui, t'as négocié le tournant avec tes parents.
Oui, histoire de se dire, j'ai quand même une licence, voilà.
Ça a dû leur faire bizarre. Presse, hein. Ta mère, ton père, non, ils l'ont vécu comment, l'arrêt de...
Ah non, mes parents m'ont toujours dit que j'ai gâché ma vie, et surtout mon père. Et même aujourd'hui, en fait, comme il a une carrière, ça fait des hauts et des bas. Ouais. Quand je gagne très bien ma vie, mon père, il me dit, et dès que ça va pas, il me fait, tu vois, t'aurais pas dû arrêter la prépa. Et ça, je l'ai une fois, de temps en temps, il me fait, voilà, tu vois, et ta retraite, et c'est quoi cet intermittent, ce métier, c'est un métier de chien. Bon, bref, voilà.
Après, il a cherché ton spectacle sur MyCanal, il l'a pas trouvé.
Exactement.
Cours Florent, comment ça s'est passé? Est-ce que tout de suite tu t'es dit, en fait, c'est vraiment fait pour moi? Ou est-ce
non,
que...
j'étais pas du tout heureuse.
Ah, ok.
Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour être connus. Ouais. Beaucoup. Surtout que c'était le début de la télé-réalité. Mais vraiment, il y avait beaucoup de gens qui venaient n'importe quoi. Beaucoup de gens qui venaient pour être connus.
Ouais.
Parce qu'il y avait eu Love Story. Et tous les gens voulaient être médiatisés à ce moment-là.
Ouais, parce qu'en plus, le cours Florent, il n'y avait pas une série. Moi, je me rappelle d'une série qui passait Florent.
Ouais, c'est vrai.
C'était un documentaire qui suivait une année du cours Florent.
Ouais.
Et en fait, c'était un truc.
C'était sur Canal.
Et donc, en fait, ça avait propulsé vraiment, ça avait mis la lumière sur ces cours de théâtre.
Oui, si, ça me dit
fait,
quelque
ils
chose.
Ils voulaient. Et donc, ils ont eu un peu une forme de célébrité. Grâce à ça, et donc je comprends que...
Donc j'étais cette génération-là, le love story, c'était quand j'étais en prépa, justement. Et l'année d'après, je rentre à Florent.
Il y avait plein de gens
qui s'en foutaient un peu de jouer, quoi. Ils voulaient juste être connus, voilà.
Et maintenant, mauvais souvenir,
notre génération, ce serait, ils voudraient tous être stand-upers, quoi.
Bah, il y en a beaucoup, oui.
Ouais. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, au cours Florent, ils ont ouvert aujourd'hui des cours stand-up.
Ouais, bah, il y a plein d'écoles du stand-up qui sont ouvertes un peu partout. Ouais, ouais.
Mais j'ai quand même rencontré des gens avec qui j'ai gardé contact, comme Arnaud Ducret, Bruno Sanchez, on est toujours nos répliques ensemble.
Ouais.
Donc, ça, c'est cool. Ça, ce qui est bien, c'est que tu crées quand même une petite famille.
Bah, de toute façon,
c'est marrant parce que le prof de théâtre que j'ai eu au cours Florent, qui était vraiment un mec super intelligent, très très bien. Il nous avait dit ça. Il nous avait dit ce que vous avez à gagner au cours Florent, c'est vraiment pas ce qui va se passer en cours pour de vrai. C'est que vous allez rencontrer les gens avec qui vous allez travailler plus tard.
Ouais.
Donc regardez les autres, écoutez-les, regardez qui vous intéresse, ce qui se passe entre vous, parce que c'est, et il avait raison, parce que moi c'est pareil, j'ai rencontré mes deux acolytes.
De Pénélope.
De Arrête de pleurer Pénélope.
Ouais, tu vois, c'est, donc on crée quand même des familles, ça c'est chouette.
Et donc dans on la jouait comme dans des tanches, avez... mais on était copines.
Oui, mais en fait, quand tu débutes, tu ne vas pas créer des projets avec ceux qui sont déjà installés.
Bah non, ça n'a pas de sens.
Tu vois, c'est compliqué, ils ont déjà leur équipe, machin.
Oui, mais donc,
tu vas créer
espérer,
des projets
oui.
avec ceux qui sont à peu près au même niveau que toi.
Mais c'est notre prof qui avait l'intelligence de nous dire ça, parce que sinon la politique du Conflans, en tout cas de mon époque, c'était, il y avait cette directrice de casting, Brigitte Descormiers,
oui.
Voilà, qui est devenue agent ensuite, et le but c'était espérer que Brigitte allait te convoquer, te repère pour te filer du taf. Donc on était vraiment dans la vision hyper horizontale du métier,
oui,
c'est-à-dire il faut espérer, attention on arrive dans le truc de Judith Godrèche, être repéré et devenir la muse de quelqu'un
mais c'est vraiment tout ce que je déteste dans ce...
Voilà, et en fait nous on a explosé ce système en le plaçant on a cassé la verticalité en faisant justement un projet à l'horizontale, ouais. C'est-à-dire te tourner vers les meufs qui sont au même niveau que toi et te dire on va faire équipe. Mais de toute façon, c'est le seul moyen de faire.
Bien sûr.
Oui, mais après, faut le réussir, ce projet.
Ah bah
parce
oui.
Qu'il faut... Comment vous l'avez fait? Ah, c'est parce que vous avez fait Avignon très rapidement?
Non, parce qu'elles ont été au bout du projet, je pense, déjà.
Parce que déjà, ouais, on a réussi à passer
triper. Ouais, mais à un moment, vous aviez un producteur, vous aviez quoi?
Au début, on n'avait rien du
rien.
Tout. Non, on a envoyé, on s'est filmé en vidéo.
Ouais.
On l'a envoyé à des tas de petits cafés-théâtres miteux, parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'époque du stand-up business royal. Donc, on l'a envoyé. Et comme on était trois meufs, il y a eu un type à Lyon qui s'est dit « Un spectacle avec trois filles, il n'y en a pas. » Enfin, parce qu'il n'y avait pas de filles dans le domaine de la comédie.
Sur les trois, je vais peut-être pouvoir m'en faire une.
Peut-être, on l'appellera. Et donc, il nous a fait venir. Il voyait bien qu'on jouait comme des tanches. Par contre, il entendait que ce qui se passait entre nous, il y avait
une énergie, une drôlerie,
puis vous êtes en fait autoproduite, parce que envoyer la cassette faire ça, c'est la partie production de
très longtemps, ça a été de l'autoproduction, bien sûr.
Et donc alors tu poursuis quand même avec
Arnaud Ducret et Bruno.
Tu fais des projets avec eux ou
alors
non?
Si j'avais mis en scène Arnaud dans un spectacle à la sortie du cours Florent qui s'appelait Les monologues du pénis. Il va me détester, mais voilà. Voilà, on a fait ça au bec fin, je me souviens, c'est le premier projet professionnel que j'ai fait, quoi. Et ensuite, non, mais rapidement, moi, c'est vrai que je faisais de la mise en scène. Ça a été assez, voilà, j'aimais bien faire de la mise en scène, de l'écriture, du jeu. En fait, moi, j'ai jamais voulu être que comédienne. J'adore jouer, mais si je fais que jouer, il y a quelque chose qui me manque. J'ai vraiment besoin d'écrire, j'ai besoin vraiment de mettre en scène. Je suis heureuse quand je fais plein de choses différentes. Ouais. Et rapidement, j'ai commencé à essayer de développer mes projets. J'ai mis un peu de temps, trouver les bonnes personnes avec qui écrire, trouver ces binômes, rencontrer quand tu... moi, je connaissais personne, hein, vraiment personne.
Ah, justement, comment tu fais?
Je galérais. Je galérais.
Traîner dans la rue. Tu
voilà.
Tu veux pas bien faire un projet avec
moi? Non, mais j'adorais quand même écrire des petites choses. Ah oui, j'étais animatrice un peu sur MTV aussi, mais ça, bon, c'est vraiment, je le faisais, c'était alimentaire en fait. J'étais pas. Et puis, à un moment donné, vraiment, je me suis dit, tiens, je veux écrire des sketchs. Parce que j'écrivais avec plein de potes, ça ne marchait jamais. Et bon, là, vous avez je me la raconte un peu, mais le moment où j'écris toute seule, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'en gros, j'essayais de vendre plein de formats courts, ça ne marchait pas. Et puis un jour, j'ai écrit toute seule. J'ai envoyé une boîte de prod qui m'a dit « c'est super ». Et là, j'ai fait « ok ».
Et tu l'expliques comment?
Peut-être parce que j'étais plus...
Centrée?
Oui, centrée. C'était le bon moment. J'étais plus libre, en fait, du coup. Mais après, je n'ai pas écrit toute seule. J'ai créé la série toute seule. Après, il y a des auteurs.
Oui, mais c'est toi
Eric
qui as initié.
Éric Quentin, du Petit Journal, qui n'avait pas encore fait le Petit Journal. Et Romain Lancry, qui est comédien aujourd'hui. Voilà. Je les ai amenés sur le projet en tant qu'auteur. Mais à la base, j'avais créé...
Donc, en fait, c'est toi qui donnes l'identité, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le fait d'écrire seul.
Et t'installes
le cadre,
c'est
l'identité.
C'est ça, exactement.
Et en fait, c'est une partie super importante et qui peut difficilement se faire à plusieurs.
Et voilà. Et en fait, comme tu fais ta petite Bible, c'est vraiment, pour le coup, c'est un petit dossier. Et quand tu as été justement un peu scolaire, c'est bien. Pour le coup, je trouve que l'école te sert beaucoup. Dans ce métier, il n'y a pas besoin de faire d'études. Mais en tant que, je trouve, scénariste, auteur, tout ça, bah, quand tu sais faire une bonne Bible, bien claire, bien structurée, je veux dire, même un film, hein, c'est un début, un milieu, une fin, comme une dissertation, quelque part.
Enfin, ouais,
tu vois, tu as quand même quelque chose de scolaire.
Non, puis tu as l'idée du raisonnement. Oui. Tu n'es pas effrayé par l'idée même de la, ni de la lecture, ni de l'écriture.
Ouais, c'est vrai.
Et de structurer tout ça.
Voilà, la structure, c'est, fait en fait, pas c'est peur. Ça, ouais. Parce que moi, j'avais plein de potes qui étaient hilarants, bien plus que moi.
Tu peux avoir plein d'idées, mais si tu les structures pas, ça sert à rien, en fait.
Exactement. Et moi, justement, j'avais eu pas mal de rencontres où les gens étaient vraiment drôles et vraiment plus que moi. Sauf qu'en fait, ça partait dans tous les sens. Donc, t'avais beaucoup de comédie, mais c'est des punchlines, mais qu'est-ce que t'en fais ? Et le fait de savoir structurer... Bah, vaut mieux les rajouter après, les punchlines.
Oui, oui.
Tu vois, t'as la base. Et donc, voilà, j'avais créé ce projet. Et tout de suite, OCS, et on a été la première fiction d'OCS.
Donc ça, c'est Merci Julie.
Ouais.
D'accord.
Et j'ai eu une grande chance, c'est qu'à l'époque, je fais venir des comédiens que j'avais repérés, qui n'étaient pas du tout connus. Donc j'avais rencontré un mec qui avait une voix très marrante, qui faisait du doublage de voix de Brad Pitt. C'était Jonathan Cohen. Fou. Il y avait Romain Lancry qui était là aussi. Bruno Sanchez, que j'ai ramené. Ah bah... Arnaud Ducret, qui a fait un guest. Audrey Lamy, que j'avais vu sur scène dans un petit spectacle, son premier one. On ne se connaissait pas, mais je la trouvais super. Alex Lutz.
Mais c'est... pareil. Mais t'avais les mains libres
Ah oui, ouais. Oui, la boîte de prod. Bah, ils ont passé... Enfin, y en a qui ont passé des castings, et il y en a, je sais que, par exemple, Delphine Baril et Bruno Sanchez, ils étaient mis en scène par Alex Lutz, ils étaient au Point Virgule, dans une petite pièce qui s'appelait La Baraque à frites, j'ai découvert Delphine Baril, excellente actrice, qui a le premier rôle dans le prochain Christophe Meurice, le prochain film de... et qui est exceptionnelle, donc voilà. Et je l'avais vue sur scène, et je me suis dit, elle est géniale, elle. Et j'ai proposé à mes producteurs, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait vachement confiance. Oui. J'ai eu de la chance. Bah, ils connaissaient un peu Alex. Alex avait déjà un petit peu... Il avait son premier one, je crois. Et puis Audrey, je crois qu'elle a commencé à peine à faire scène de ménage, mais même, je suis même pas sûre. Et pour certaines personnes, ils ont fait passer un casting, mais... Mais bon, on a...
Et après, c'était quoi ton rôle aussi dans... Donc, t'as écrit la série, mais est-ce que
elle jouait un personnage.
Non,
c'est Jeanne Gottesdiener qui réalisait.
Exactement. J'ai pas réalisé, j'osais pas encore prendre cette place, que quand je trouve que t'écris et que tu as le premier rôle pour réaliser, tu vois, je l'ai fait ensuite, mais c'était dur quand même, en fait. Et là, non, pas du tout, c'est Jeanne Gottesdiener qui a réalisé. Moi, c'était plus vraiment le texte et puis le choix des comédiens.
Ce qui est déjà pas mal, hein.
Ouais. Donc, et ça, c'est la première expérience, mais c'était du sketch. Et je n'ai rien contre le sketch, mais rapidement, j'ai voulu faire de la fiction. Parce que là, c'était du sketch, c'était des conneries, tu vois, on s'est bien marré.
C'était quel format ?
Trois minutes.
Okay.
Et c'est le format, c'était. Ça s'appelait Merci. En gros, c'était très cynique. C'était des gens qui m'appellent qui ont un problème et moi, je leur propose des solutions de merde. Voilà, tout simplement.
Oui, et puis jouer, tu sais, un petit peu l'host américaine. Avec
Je faisais un peu speakerine. J'essayais d'être glamour, ce qui n'était absolument pas mon code de jeu. Donc j'ai bien galéré, parce que moi, c'était pas du tout ça à la base. Mais bon, c'était très chouette, une bonne expérience.
C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois que les stars de maintenant.
Mais oui.
Alors qu'ils n'étaient pas du tout connus à l'époque.
Ouais. Mais non. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce
c'était,
que.
C'était autour de quelle année ça ?
C'était 2010.
D'accord, oui.
2010. Et donc je fais ce petit format court, mais pareil, OCS, personne ne regardait à l'époque. Vous voyez, c'est très finalement confidentiel.
Il n'y avait pas encore les plateformes.
Non,
OCS. Je ne sais même pas comment on y accédait.
Bah, il fallait que tu aies la box orange, je pense. C'est ça, tu ne l'avais pas sur les autres trucs.
Et suite à ça, je me suis dit, je veux vraiment faire de la fiction. Et là, ce qui est important justement sur le processus créatif, c'est que j'étais avec une de mes meilleures amies. Donc, on a, 29 balais. On est là. Et puis, on se raconte nos histoires de mecs. C'est la merde. On est en loose totale. On est deux vieilles meufs, quoi. On est là, au cœur fou.
29 ans, deux vieilles meufs.
Non, mais vraiment, deux vieilles meufs. Non, mais deux dépressos.
Non, pas dans ce sens-là.
On est là en train de dire, putain, mais on tombe que sur des trouducs. Mais c'est nous, on est des aimants à trouducs. Qu'est-ce qui se passe ? Voir en pas.
On est des trouducs.
On est exactement. Qui ? Mais on est perdus. Mais je veux dire, on était là en train de se dire, mais ça va pas, c'est la loose et tout. Toutes les deux comme ça, on est tristes avec nos histoires de mecs horribles et tout ça. Et en fait, à ma droite, j'entends deux gamines de 18 ans dire la même chose. Et à ma gauche, deux nanas de 40 balais dire la même chose. Et là, je regarde ma pote et je lui fais « Putain, c'est universel. C'est pas nous, déjà. C'est un vrai sujet. Trouver un mec dans des grandes villes comme Paris, c'est très dur. » Et je me suis dit, finalement, déjà, on était contentes de dire on n'était pas les seules loseuses. On s'est dit, ça concerne beaucoup de nanas. Et du coup, je me suis dit, ce sujet, il est universel, donc je le prends à bras-le-corps. Et j'étais très fan de How I Met Your Mother à ce moment-là. Et How I Met Your Mother, ils avaient une narration particulière. Il y a toujours des allers-retours. Ils se retrouvaient dans le bar. Et il y avait Barney qui était un gros mytho. Souvent, il mentait. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu voyais en flashback, c'était pas du tout la vérité. Et donc, du coup, moi, j'ai adapté cette narration à Roxane. C'est-à-dire que c'est une nana qui se confie à son meilleur pote. Elle lui raconte ses histoires de cœur pourri. Et tu vois, les allers-retours, c'est clairement inspiré. Tu vois que des fois, elle dit de la merde, elle ment, elle assume pas. Quand elle est avec son mec, il la maltraite, elle dit « Ouais, il était trop mignon. » Tu vois que c'est pas du tout vrai. Et donc, il y a un mélange de sincérité, d'universalité et d'inspiration. Voilà, non mais c'est pour la création. Et puis, il y a eu Bref aussi, qui était l'année d'avant. Je me suis dit « Bref, j'ai trouvé ça génial. » C'est la première fois que tu avais un format court qui s'ouvrait sur plein de décors. C'est qu'avant, bref, le format court, c'était comme Scène de ménage, comme Kaamelott,
comme un gang,
en fait, c'était décor fixe. Ouais. Et pour la première fois, bref, ils ont innové un truc dingue, c'est que, d'ailleurs, ils ont dû se tirer une balle au niveau du plan de travail, ça a été cross-bordé à fond, ils ouvraient sur plein de décors pour un tout petit format.
Ouais.
Et du coup, ça aussi, c'était une inspiration. Je me suis dit, ah, c'est génial, on peut faire ça.
Ça donc, c'est galère, mais... Même dans la narration, d'ailleurs, parce que du coup, c'est un peu pareil, parce qu'il... Il raconte un truc, en fait.
Oui, mais il a une voix off. Il est en voix off. Ouais, moi, c'est vrai, pas du tout. Moi, pour le coup, c'était vraiment Way Met.
Ok. Et comment vous êtes rencontrés, en fait, avec François, du coup?
On s'est rencontrés au studio Pygmalion.
Ouais.
C'est quoi?
Eh bien, c'est une école d'acteurs.
Oh, on se doutait bien que c'était pas une charcuterie, François. Ah,
bah. On aurait pu.
Oui, c'est vrai.
Ben non, c'était vers 2010 aussi. C'est que c'est juste après ton Merci Julie. Parce qu'en fait,
la réalisatrice était la directrice de l'école, c'est ça?
Oui, enfin c'est la directrice. En tout cas, c'est une des coaches fondatrices du studio Jeanne Gottes Dinner. Il y a plusieurs.
Redis, pardon.
Jeanne Gottes Dinner.
Oui, okay. Tout à fait.
Tu veux que je redis, c'est ça?
Enfin.
Oh. Et en fait, on s'est rencontrés au stage rencontre, qui est une semaine de rencontre où en fait les coachs.
Toi, t'étais élève?
Ouais.
Ok.
Ah oui. J'ai commencé ma formation de comédien là-bas.
C'est une question.
Non, mais oui. C'était vers 2010, c'est ça, c'est à peu près 2010. On est au stage rencontre ensemble avec Julie. Donc, c'est une semaine où on rencontre tous les coachs et les coachs nous rencontrent. Et au bout de la semaine, tu dis si tu as envie d'intégrer le studio ou si pas. Et comme il y a plusieurs ateliers différents, alors ils disent qu'il n'y a pas de niveau, mais en fait, il y a des niveaux. Mais tu te dis, je vais intégrer plutôt tel atelier, plutôt tel atelier. Et en fait, on est rentrés à ce moment-là. Alors, on n'était pas dans le même atelier au début. Et après, j'ai intégré son atelier parce que j'étais vraiment, moi, elle avait déjà une expérience. Moi, je démarrais ma formation de comédien. J'avais fait une année d'amateur en théâtre. Mmh. Donc, j'étais à l'atelier du soir, Julie l'après-midi. Et puis, au bout de quelques mois, je suis passé l'après-midi. On s'est retrouvés. Et on a fait...
Moi, je ris parce que quand même, il y a une anecdote. C'est qu'il y avait un atelier sur la nudité. Et on s'est retrouvés à poil sur un plateau. Voilà. Et donc, c'est tout de suite, je vois François, je le vois nu. Ça me fait rire.
Voilà.
Bah, raconte-nous alors.
Ça me fait rire. Ça pourrait juste impressionner.
Là, je me permets d'intervenir. Là, ce que Julie vient de raconter, je ne peux pas te dire. J'ai tous les poils de mon corps qui se dressent d'horreur.
De voir François nu?
Non,
merci.
Non, de mettre les étudiants nus sur un plateau.
Ah ouais, c'est sûr.
C'est vrai qu'avec le recul, moi je trouve ça extrêmement dur.
Rien contre la nudité, bien au contraire, c'est pas le sujet, mais on vit quand même dans une société où le code commun, c'est quoi qu'il, t'as des vêtements. Donc demander à des gamins, parce que souvent
on avait 30 ans.
Oui, on avait 30 ans.
Mais peu importe, c'est des jeunes gens. Oui. Surtout quand t'es en.
Il y avait une nana qui avait 12 ans, c'est vrai.
Quand t'es en place. Non, mais c'est pas ça. Mais quand t'es en place d'élève, de toute façon, t'es dans une certaine position. Tu peux avoir l'âge que tu veux. T'es dans une position qui est une position de domination. Et leur demander de se foutre à poil sous prétexte de
ça va être libéré. Je comprends pas en 2010 que ça soit encore.
Attendez, c'était en 2010. Hein, quand
alors, le studio ne se résume pas juste à ça. Mais
non, mais c'est pas pour accuser. On voit ça dans plein d'endroits. Mais
contextualise. Parce que pour moi, c'était une scène pour jouer une scène, je sais pas. De...
Non, en fait, non.
Vous mettiez tout nu pour jouer autre chose que.
En fait, le fait d'être nu. Non, alors, juste, allez vite, le studio Pygmalion, c'est pas une école, genre tu rentres et au bout de 3 ans, t'as un diplôme, c'est pas ça. C'est en gros, c'est un atelier entre, pour débutants, mais aussi professionnels, qui peuvent venir un mois. Et chaque mois, il n'y a pas de. Tu t'engages pour une durée minimum d'un an, mais tu peux démarrer en milieu d'année, t'arrêter au milieu d'année. Et c'est plutôt un studio de training de comédiens. Et en fait. Chaque mois, il y a un thème. Donc, tu as le mois de la peur, le mois des larmes, le mois de la comédie, tout ça. Et il y avait le mois, je ne sais pas si ce n'est pas la nudité, parce qu'on ne fait pas
c'était
un mois
la sexualité.
Sexualité. Sur le désir, ouais, sexualité. Et en fait, il y a un moment, un atelier.
Il n'y avait pas d'obligation.
D'abord.
Non, mais oui, je
n'avais pas d'obligation. C'était de se dire, c'est pas forcément plus
c'est
juste sexuel.
C'est qu'on était exhibitionniste, tout simplement.
Non, il y a dans la nudité, il n'y a pas juste la sexualité. C'est-à-dire qu'il ok, tu vas tourner une scène dans une douche. Tu ne vas pas la jouer, tu ne vas pas faire croire que tu es habillé. Donc,
mais tu plaisantes ou quoi, enfin, la plupart des acteurs se font... Enfin, c'est ça qui m'énerve, ouais. C'est que tout le monde sait que les acteurs, dès qu'ils ont un tout petit peu de standing...
Doublure corps.
Enfin, moi, le premier rôle pour lequel on m'a jamais casté, c'est Doublure corps de Juliette Binoche dans le film sur l'adaptation de Giono, Le Hussard sur le toit. Mm-hmm. Donc je me suis dit, ah d'accord, donc... C'est pas le corps. Enfin, elle est.
Non, mais.
Moi, je trouve que tu as tout fait raison.
Mais pardon,
Juliette.
Mais il y a une hypocrisie, mais qui est monumentale. C'est-à-dire, les personnes qui se foutent à poil, c'est les gamins et les gamines qui sont personne. Par contre, dès que ça y est, tu commences à tenir, à avoir une forme de pouvoir, parce que tu es un tout petit peu connu, c'est terminé. Et ta scène de douche, si tu as envie de la faire, tu vas voir le directeur et le réalisateur et tu lui dis, tu me cadres là.
Oui,
et donc
tu es
en robe dessous et personne ne voit rien.
Oui, mais on voit tes épaules.
Tu as une partie. Non, mais tu peux avoir une. Oui, mais ça peut être déjà une partie intime.
Mais même moi, ce que j'ai déjà fait justement sur Roxane, on me voyait de dos. Donc, t'as l'impression que j'étais nue.
Mais
en fait, j'avais
un bandeau.
Il n'y avait rien. Le comédien en face de moi. Il ne voyait pas mes seins du tout, hein. Donc ouais, tout à fait.
Donc non, ce truc sur la nudité, vraiment, c'est ça, c'est une des.
Aujourd'hui, il ne pourrait plus se permettre. Non, je ne suis pas sûre qu'il le fasse aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué.
Parce qu'en plus, maintenant, il y a
même sur les films, il y a les coordonnateurs d'intimité, tout ça. C'est une autre époque. Ça va mieux. Alors, c'est loin d'être parfait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non.
Bon, d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que tu as. Toi, peut-être, je sais, non, je pense pas. Mais est-ce que tu as déjà fait des films avec des coordinateurs d'intimité ?
Non.
Non ?
Non. J'ai tourné la seule scène, c'est très drôle, la seule scène de sexe que j'ai tournée, la fille était habillée, c'est l'homme qui était nu. Formidable ou pas ? Et ça a été coupé. Donc,
ça n'a pas passé la projection test.
Non, ça a été coupé parce que c'était visiblement trop chaud. Donc,
et toi, Juliette, tu as déjà fait des... Non, toujours pas de coordinateur de
non, j'aurais bien aimé, non. Parce que ce matin, c'est marrant, à la radio, j'ai entendu Caroline Champetier, la chef-op, qui est une des chef-op les plus connues du cinéma français. Ouais. Qui était interviewé par rapport aux histoires, aux drames.
Judith Godrèche,
Doyon, Benoît Jacquot. Voilà. Bon, je pense que ça va.
On enregistre, c'est juste le moment où ça se passe, qu'on enregistre.
Oui.
Et Champetier, donc, était interviewée parce qu'elle était témoin de elle était chez FOP. Et elle disait, ce qui m'a fait plaisir dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas du tout de notre génération, qui doit avoir, je ne sais pas, 60, 65 ans, et qui disait, heureusement que les choses changent. Et on ne se rendait pas compte à l'époque. Mais elle disait, on était complètement cons, quoi.
Oui, mais tu vois, même là, le fait que je plaisante sur... tu vois, ta réaction, je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'était pas... Tu vois, aujourd'hui, je trouverais moi, je le ferais pas. Aujourd'hui, je dirais pas à des gamins de le faire.
Voilà.
Mais dans l'époque.
Oui, ça passait crème, je sais.
Tu vois, t'as un truc où tu le vois pas, tu le vois d'une manière artistique, profonde.
Oui, c'est ce qu'on te. À partir du moment où dans une pièce, il y a des gens qui sont habillés et qui donnent des ordres ou des propositions et d'autres gens qui sont pas habillés, de toute façon, il y a un problème. il y a un problème. Enfin, y a... Moi, je le vis, en tout cas comme actrice, je l'ai vécu comme ça. Et donc, la fois où j'ai tourné à moitié à poil, à crapahuter sur le corps d'un type, oui, j'ai fini ma scène, je me suis tenue devant les gens, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toute la fin de l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit.
C'était en équipe réduite
grâce à la chef-op, ouais, c'était en équipe réduite. Et heureusement, elle a eu la gentillesse. Enfin, la gentillesse, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, elle a eu...
La délicatesse.
Elle a dû voir un truc dans mes yeux qui était en train de mourir. Mmh. Et elle est venue me dire... elle m'a expliqué le cadre. Elle a eu ce truc-là. Et en fait, elle l'a ramené sur un truc pragmatique. Et moi, ça m'a aidé à pas me... À pas crever de chagrin, quoi. Parce que, en fait, moi, dans ma vie... La seule fois où j'avais été en dessous comme ça, à toucher le corps d'un homme, c'était parce que j'étais amoureuse. Mmh. Et moi, je suis désolée. Ça fait sans doute de moi une comédienne médiocre. Et... Mais moi, toucher la peau d'un autre ou d'une autre, ça n'est pas anodin. Je regrette. Ouais. Ça fait partie de...
Bah, c'est pour ça que beaucoup d'acteurs et actrices tombent amoureux sur les tournages.
Ouais. Bah ouais,
parce qu'il y a un truc de confusion qui est extrêmement gênant. Et pareil, mon prof de théâtre au cours Florent, et ça, je lui, c'est encore une des nombreuses choses dont je lui suis extrêmement reconnaissante. Je devais tourner une scène de Lucrèce Borgia, enfin, pas tourner, jouer une scène de Lucrèce Borgia, et j'étais très proche de l'acteur. Et j'étais allée voir Laurent, mon prof, en lui disant « J'ai jamais embrassé quelqu'un pour de faux, ou touché quelqu'un pour de faux. Qu'est-ce que je suis censée ressentir ?» Et Laurent m'avait dit hyper gentiment, bah, ou ça va te plaire, et ça sera peut-être un problème, ou ça va te déplaire, et ça sera peut-être un problème. Mais tout à coup, ça avait ramené ça à un truc... j'avais le
humain,
droit,
humain.
Oui, j'avais le droit que ça me plaise, j'avais le droit que ça me déplaise, et j'avais pas, il ne m'a pas dit, c'est rien, tu es actrice, ton corps n'est pas... C'est mon corps, c'est mon passé, c'est mes souvenirs, c'est tout ce que je n'ai pas avalé, digéré, qui va se jouer là.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ça, je trouve qu'on le dit, qu'on a raconté trop de conneries sur le travail des acteurs et des actrices.
C'est vrai.
Mais c'est marrant, parce qu'en fait, tu sais, Léo, la semaine dernière, on a reçu Léo Carman, qui est un scénariste, réalisateur, et il nous expliquait que pour lui, la fonction de réalisateur, c'est refabriquer le réel. Et sur ces scènes-là, en réalité, souvent les réalisateurs veulent voir le réel et pas le refabriquer artificiellement.
Ils veulent capter le réel.
Oui,
mais c'est pas le capter, voilà. C'est
le voler sur des gens jeunes.
Mais c'est un putain de problème.
Mais rarement le refabriquer. Parce qu'en fait, tu peux le refabriquer
en trichant. C'est ça le travail de création.
L'axe. Mais sur ces scènes-là, on le fait assez rarement. Vas-y, François.
Alors, moi, j'entends complètement, je suis d'accord avec toi. Ton regard a changé par rapport à ce qu'on a fait à ce moment-là. Et c'est normal.
Non. Je dirais que vous parlez de tout à fait. T'es en train de parler de tout à fait autre chose.
Non, je ne parle pas de moi à poil.
Non, mon minou.
Non, c'est pas du tout ça. Non, mais et ce qui est normal, parce qu'en plus, avec tout ce qui s'est passé depuis, entre-temps, forcément, notre regard, il a changé. Moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et je ne le vois toujours pas comme ça. Moi, ça a été une étape importante, le fait de... Et je l'ai décidé. Enfin, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Et bien sûr qu'il y a... Même les coachs qui étaient plutôt bienveillants, avec qui je retiens des super relations, qui ont été des gens importants pour moi, nous ont toujours dit, et c'est peut-être un problème maintenant, qu'on projette des choses sur les comédiens, même si ce sont des élèves. Il y avait une honnêteté par rapport à ça, et que même eux disent des fois, on a nos préférences, voilà. Parce qu'en fait, ils expliquaient comment ça fonctionnait aussi, le désir de cinéma, de comédien,
mais là, c'est
de trucs.
Autre chose, on parle
du
même sujet.
Mais ce que je veux dire, c'est que, alors je digresse un peu de ça, mais du coup, moi, je ne me suis jamais senti objectivé, qui peut être différent pour une femme, encore que... j'ai pu être objectisé aussi, mais c'était plutôt une performance, parce que moi j'étais obligé de casser des murs à ce moment-là. J'étais moi en pleine construction. Julie, toi t'avais déjà une première partie de carrière et tout, moi j'étais vraiment en construction, donc je me suis vraiment découvert comédien au studio Pygma Lyon, je me suis vraiment formé là-bas et j'avais besoin de casser des murs, de passer des étapes, et ça a été un truc un peu fondateur dans ce que je suis un peu, c'est-à-dire que ce côté un peu performance, je le voyais plus comme une performance que comme un truc de malsain ou de désir, le désir de l'autre, en limite, je m'en foutais, quoi, tu vois, de comment il pouvait me percevoir, si un metteur en scène pouvait...
Mais t'es un garçon, François.
Oui, et je suis d'accord avec toi, mon regard n'est pas le même parce que je suis un garçon.
T'es pas soumis, en plus, quand t'es comédienne, je pense qu'aussi, Julie, elle est comédienne, mais elle l'a précisé tout de suite que t'es aussi autrice, que t'es aussi metteuse en scène. C'est pas par hasard non plus si on choisit d'être plusieurs choses. Parce que...
Ah bah non, mais de toute façon, moi, c'était évident qu'il y a aussi un choix où, moi, à l'époque, en tant qu'actrice, je correspondais pas du tout à la jeune première, mais pas du tout. Du coup, avec ma grosse voix, on me disait, peut-être physiquement, j'aurais pu faire un peu semblant. Mais alors, mon caractère et ma voix ne correspondaient pas. Ah ouais, non. Et du coup, j'ai...
c'est pour ça que tu t'es orientée sur l'écriture
Non, parce que c'est ma nature, mais j'ai aussi beaucoup créé des choses avec de la personnalité, avec de la comédie, avec du tempérament. À l'époque, les meufs, c'était des potiches, c'était... Enférique, dans les comédies, les meufs, elles servaient la soupe. Et moi, j'étais là, j'ai rien à foutre de servir la soupe à un mec. Je préfère, moi, avoir mon petit format court où je m'éclate, même si c'est juste un petit format court, que de donner. De servir la soupe dans un film, en fait. Où est l'intérêt? Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'était très, 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 très compliqué. Et moi, tout ce que j'ai. Mais même Roxane, à l'époque, on me disait, c'est une série de femmes. J'étais, comment ça? Donc, est-ce qu'on a dit de bref, c'est une série de mecs?
Jamais.
C'est jamais.
Tu vois, ce qui me tue, c'est que moi, à l'époque de Arrête de pleurer Pénélope, c'était bien avant, je me disais qu'on a passé des années à dire aux journalistes, mais bordel, arrêtez de nous dire qu'on fait de l'humour de filles, ça veut rien dire.
Mais ouais.
C'est d'une violence, vous nous mettez dans des cases.
Et il y a 10 ans d'écart entre les
deux.
Et
on a 10 ans d'écart, c'est-à-dire qu'on a eu beau le dire.
Non, mais bien sûr.
Et ça continue.
Et même après, ça continue. Mais j'étais là, je me disais, mais c'est un truc de fou. Je comprenais pas ça. Je me disais, un humour de filles, je fais, et en plus, et alors là, c'est ma petite victoire, sur YouTube, la nana qui s'occupait de mettre en ligne nos vidéos, avait dit qu'en fait on avait 51% de femmes et 49% d'hommes qui regardaient, parce qu'en plus les mecs ils étaient friands de voir ce qu'il y avait dans la tête d'une meuf amoureuse ou pas, et que en plus tout le petit il y avait le meilleur pote, il y avait le sex fan, le mec et puis tous les autres, bon voilà, c'était quand même... il y avait beaucoup de mecs finalement.
Ils cherchaient peut-être des tips pour se comporter comme des connards.
Non mais
ils savent
oui, ils ont pas besoin, je pense,
ils l'ont, mais, c'est dans l'ADN.
Et on me disait c'est une série de femmes, et j'étais là, je dis mais pourquoi vous me dites ça? C'est incroyable.
Oui, mais c'est la même chose pour la cuisine. Dès que tu as une femme qui est, par exemple, un chef gastro, une chef gastronomique, on va parler de une cuisine. Elle a une cuisine féminine.
Le tout charme du Jamel Comedy Club.
Moi, ce que j'avais eu d'affreux, c'était j'avais créé une série qui s'appelait Femme de voyou. Bon, c'était un thriller un thriller comédie un peu à la Snatch. En gros, c'était des nanas dont les mecs étaient voyous à divers degrés et qui se retrouvaient voyous à la place de leur mec, que ce soit l'avocat véreux ou le dealer, peu importe. Moi, c'était une histoire où elles se retrouvaient toutes, en fait, à reprendre les rênes d'un système parce que leur mec était en prison.
Ah, c'est marrant, c'est le film Veuve.
Voilà. Exactement. Et j'ai écrit ce truc-là il y a de ça 8 ans.
Mais tu t'es fait voler ?
Non ! Évidemment que non.
Bah si, parce que
non, parce que moi, il y a de la comédie.
Ah d'accord.
Là, il n'y a pas du tout de comédie dans Les Veuves. Donc, j'écris c'était une série, moi. C'était pas du tout un film, c'était une série. Et avec de l'humour noir. Et donc, j'ai mes producteurs qui sont au taquet, qui disent on adore. On va voir toutes les chaînes, toutes sans exception. Il y a 8 ans de ça, on dit 4 meufs héroïnes, ça ne nous intéresse pas.
Ouais.
J'ai eu ça. Et quand j'ai vu 2 ans plus tard un film américain, Les Veuves, avec le même pitch, bon, avec des grandes actrices et beaucoup plus sombre, hein, parce que j'étais là, j'étais... Ah ! Putain, la France, quoi ! Le retard ! C'est un retard épouvantable.
Putain, c'est ouf, ouais.
Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ouvraient même pas le dossier. 4 meufs héroïnes, ça dégage. Surtout que c'était un thriller, un peu, des meufs un peu badass, tout ça, tu vois, il y a du deal, tout ça. Donc, en plus, c'était pas propre. Donc, surtout pas. J'étais effarée. Alors là, ça, c'est en train de changer, mais... Putain, la création,
doucement,
mais très doucement, mais évidemment. Moi, chaque fois, on me dit, ah, c'est formidable, c'est pas pour nous. Je fais, putain, mais les gars, et en plus, j'ai plein de producteurs aujourd'hui de mon âge qui sont hyper féministes, il y en a que c'est par opportunité, on va pas se mentir, parce que c'est soi-disant la mode en ce moment. Il y en a, c'est vraiment par conviction, qui sont adorables. Et dans les deux cas, ils sont à fond, parce que c'est pas les auteurs le problème, c'est pas les producteurs le problème, c'est les diffuseurs. C'est une...
Ouais,
en haut,
ouais.
Tu voudrais dire que ça serait ceux qui ont l'argent? Tu voudrais dire que ça serait un problème du capitalisme?
Je te laisse seul juge. Parce que moi, j'ai besoin du CNC et de tout ça.
Parce que... Alors si moi, je me dis, le capitalisme et le patriarcat sont vraiment très, très amis.
Mais tu vois, si tu avais poursuivi HEC, c'est toi qui aurais distribué l'argent et tu aurais distribué l'argent à des projets de ce type.
Tu sais que des fois, je me dis, de retour vers le futur. Et là, tu repars avec tout ce que tu sais maintenant. On te refoute dans ta classe prépa. Et on voit
Je te jure, Juliette, ça m'est déjà arrivé. Quand j'écris des projets comme ça qui se font toper, qui vont loin, ils se font toper à chaque fois. Et à chaque fois, il y a effectivement, c'est très, très engagé. Enfin, moi, dans ma forme, c'est toujours marrant, mais dans le fond, ça l'est pas. Et ils ne sont pas dupes, visiblement. et je me fais toper, je me dis, putain, en fait, le pouvoir, il est... Si c'est toi qui donnes les sous, qui finance, c'est toi, en fait, qui peux apporter toute la modernité. Alors, et faire évoluer la société, bien sûr.
Donc, et là, on revient à un truc. Il y a eu Adèle Haenel, qui a envoyé chier le cinéma il y a 2 ans maintenant, c'est ça?
Trois ans.
Avant ça, il y avait eu Virginie Despentes, quand elle a décidé de réaliser elle-même en duo avec Coralie...
C'est Baise-moi.
Baise-moi.
Ouais.
Après, donc le film qui a failli être choper une interdiction moins de 18 ans, enfin ça a été un bordel monstre, la critique entière a décidé que c'était un film de merde, à part évidemment 3 journaux punk. Et elle avait dit, Virginie Despentes, elle a parlé du monde du cinéma, en disant que de toute façon, tant que ça serait des hommes qui tiendraient, des hommes blancs hétéros qui tiendraient les cordons de la bourse, de toute façon, il ne se passerait rien. Et... À l'heure actuelle, oui, il y a des améliorations,
un petit peu.
Oui, c'est vrai.
Non, il faut se réjouir des petites avancées.
Mais dans les faits, si on met un diagramme de qui a le pognon et qui donc a les rênes de toutes les grosses boîtes de distrib et de production française, je vais vous spoiler, c'est pas trop. Et si c'est des femmes, de toute façon, c'est des femmes qui ont embrassé la cause
des hommes. Évidemment.
Et j'ai des noms.
Allez, moi aussi.
Voilà.
Les noms.
Moi, je m'en fous. Je l'emmerde.
Ça, je sais bien.
Mais pour autant, je ne vais pas les donner parce que j'ai peur d'un procès en diffamation.
Puis il y a d'autres noms que je voudrais donner d'abord. C'est plus des mecs.
Non, mais
oui, c'est vrai que c'est des vrais sujets. Après, moi, vraiment, ce que je dis, c'est que comme je rencontre de plus en plus de gens formidables qui ont envie que ça bouge, je reste. Mais c'est plus une question de génération que de genre, même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Souvent, on se dit, oui, c'est les mecs, machin. Moi, je trouve qu'aussi, il y a une question de génération.
Ouais, mais ça bouge quand même lentement, même sur les générations. Parce qu'il y a des tas de jeunes qui ne vont pas miser non plus sur des femmes.
Non.
Des jeunes producteurs.
Mais moi, je l'ai même avec des journalistes. Mon spectacle, ils disaient, alors, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, on ne fera rien. J'ai jamais entendu une phrase aussi folle. J'ai jamais entendu. Et au début, j'étais tellement naïve que je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais si c'est bien écrit, bien joué, pourquoi vous faites rien? C'est quand même bizarre de dire qu'un spectacle... Normalement, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est un bon spectacle, on fait un petit truc. Et j'ai réalisé avec le temps, j'ai fait, mais non, c'est pas possible, mais non. C'est ce que je raconte. Ah merde. Mais vraiment, je ne plaisante pas, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, c'était tellement évident, ce que je racontais était tellement... Vrai, tellement vrai que tellement évident. Enfin, il n'y a pas de...
Tu peux peut-être expliquer un tout petit peu ce qu'il y a dans le spectacle.
Non, c'est vraiment un spectacle sur la féminité et la masculinité. Et en gros, moi, je l'écris à ça.
Masculinité toxique aussi, beaucoup.
Non, mais ce que c'est que d'être une femme, les questionnements, parce que moi, longtemps, on me disait, t'es pas une femme comme il faut. Voilà, même au théâtre, on me disait, mais tu... Parce que moi, je m'asseyais quand même les jambes écartées. Comme un cum, tu vois, comme as. Et on me disait, non, il faut mettre les... il faut plier, en se... Enfin, et on me disait, mais c'est pas possible, t'es pas une meuf, quoi. Et j'étais là, Et vraiment, j'avais l'impression de pas être une fille comme il faut. Et ça m'a, à un moment donné, ça m'a blessée. Au début, ça m'amusait, puis après, ça m'a un peu blessée, je comprenais pas. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que d'être une femme vraiment? Et donc, j'ai questionné la féminité. Et puis, après, le spectacle a évolué, parce que je l'avais créé en 2015. En 2018, après MeToo, j'ai interrogé la masculinité. Qu'est-ce que c'est, du coup, que d'être un homme? Qui sont des sujets aujourd'hui très répandus, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Et du coup, voilà, c'est, ça interroge ça beaucoup.
Et donc,
beaucoup.
Oui, là-dessus,
il voulait, évidemment, il y a plein de choses qui ne plaisent pas. Sauf que comme moi, j'étais là, genre, c'est un constat, hein, donc il n'y avait rien de... C'était même pas un point de vue, c'est un constat.
Mais tu dénonces énormément dans le spectacle, quand même.
Oui, mais je m'en rendais pas compte.
On a tous les rapports de domination de l'homme sur la femme, quand même.
Oui.
Dans tous les différents genres.
Oui, mais comme il y a...
De ton adolescence.
Bien, de mon adolescence, effectivement, à ma vie de femme. Mais en fait, comme il y a une ode aux hommes gentils, pour moi, c'est pas du tout un spectacle qui dénonce les dysfonctionnements de notre société.
Oui, mais ceux qui ont le pouvoir, et des hommes, c'est les hommes toxiques.
Mais je veux dire, moi, il y a une vraie déclaration d'amour aux hommes gentils. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un papa très gentil. Donc, on est vraiment, c'est pas du tout un truc anti-mec, pas une seule seconde. D'ailleurs, il y a plein d'hommes qui ont vraiment aimé mon spectacle. Mais effectivement, en fait, j'ai dérangé plein d'autres et je m'en rendais même pas compte.
Ouais.
J'avais une naïveté, hein. J'étais un peu con, quoi. Parce que normalement, quand tu veux travailler, tu te tires pas une balle dans le pied comme ça. Tu fais ouais, c'est formidable, j'adore. Tu vois, non.
Et spectacle à retrouver sur MyCanal, disponible.
Et si vous tapez Julie Bargeton, ça...
Ouais, ça apparaît. Là, je l'ai fait tout à l'heure. Ça apparaît.
On a la preuve.
Bargeton, Bargeton. Hein. Oui. Si vous mettez un J, ça n'apparaîtra pas.
Voilà.
C'est peut-être ça qui a fait le réel.
Et on est passé un peu vite, mais en fait, pourquoi toi, tu t'es inscrite à la formation des tout nus?
Ah et ben non, c'est une formation. En fait,
c'est Jeanne qui t'a dit viens.
C'est la réalisatrice qui m'a dit de venir, mais surtout, ce qui est intéressant en tant qu'acteur,
t'as vu
c'est
jouer,
que
elle a dit viens ouais, parce prendre des cours.
Non, ouais, on discutait.
Non, c'est elle qui a réalisé la série.
Oui. OCS. Oui, la série d'OCS. Oui, non, mais il a raison. Il a raison. Celle qui, elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit un truc très juste. Et d'ailleurs, Meryl Streep, aujourd'hui à son âge, avec le talent incroyable et toutes les récompenses qu'elle a, continué à s'entraîner. En fait, le jeu de comédien, c'est un peu, on est un peu des instruments qu'il faut régulièrement, faut s'entraîner en fait, comme des sportifs. Et elle disait, tu vois, moi j'ai un atelier, viens de temps en temps quand tu veux, quand tu travailles pas, parce que c'est la formation, c'est important de se former continuellement. Et c'est vrai. C'est moi j'ai refait un stage en anglais. difficile au niveau d'anglais qui est vraiment à moins 3, la prépa avait raison parce que c'est vachement intéressant d'aller explorer parce que des choses, tu vois, des fois tu joues des... en fait souvent, à part quand t'as la chance d'être une grande actrice et d'avoir accès à des rôles merveilleux et très très profonds, les trois quarts des comédiennes, on joue des fois des trucs franchement bas de gamme par rapport à ce qu'on nous apprend et quand tu peux renouer avec des grands textes ou explorer un personnage fou, génial en atelier, déjà ça te fait du bien, tu te reconnectes vraiment à ton jeu d'acteur. Et en plus, ouais, c'est un entraînement, c'est bien de repartir en plateau un mois comme ça. Tu te dis si t'as du temps, hein, si t'as du temps, bien sûr que t'as envie de le faire. Donc c'est, il y a plein. Et surtout au studio Pygmalion, c'est après moi j'étais partie faire un peu l'acteur studio à Los Angeles. C'est la même chose, c'est pas du tout les cours Florent. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est un mélange de psychanalyse et de méditation pleine conscience. Alors on peut s'en moquer, mais en vrai, tu sais où appuyer
pour déclencher
les émotions. Et je trouve que c'est beaucoup plus intérieur. Moi, ça me correspondait beaucoup plus comme méthode que juste jouer des fois des scènes où tu arrives, en fait, t'es extérieur. Tu joues, mais tu n'es pas. Si on est un peu dans le truc de l'acteur, tu vois, tu joues en une situation, mais en fait, tu ressens rien. Et moi, je trouve que de ressentir, c'est quand même
toi,
la base.
T'as besoin
ouais,
de...
moi, j'ai préféré.
Mmh. C'est marrant, parce que nous, c'était exactement la raison pour laquelle on s'est dit qu'on voulait écrire une comédie. Ça vient de me revenir. Quand on a commencé à écrire Arrête de pleurer Pénélope, au début, comme on avait bossé sur une pièce avec deux acteurs qui étaient déjà écrites, et il y avait des choses drôles, mais le fond du truc, c'était plutôt un drame. Donc quand on s'est retrouvés toutes les deux, parce que les deux garçons s'étaient barrés, on s'est retrouvés entre gonzesses, on s'est dit, bon, on écrit nous, pour trois, et on s'est dit, c'est quoi le genre qu'on choisit, le registre? Et hyper vite, et Christine et moi, on avait dit, on va faire de la comédie, et pas parce qu'on aimait tant l'humour que ça, enfin si, on était très rieuses et tout, mais parce qu'on savait qu'on était beaucoup trop fragiles pour faire du drame.
C'est-à-dire parce que tu le vivrais trop, comme c'est intense.
Qu'on allait écrire des trucs qui forcément...
Le jouer tous les soirs, ça peut être plus difficile à vivre avec son personnage.
Et même, tu vois, dans une comédie, moi, quand j'ai écrit la suite de Arrête de pleurer Pénélope, qu'on l'a joué, et je jouais enceinte, enfin, j'avais un ventre, un faux ventre, c'était pas une bonne idée.
C'était compliqué à ce moment-là de ta vie.
Tu le payes, donc si en plus c'est un drame... c'est bon quoi, au bout de 150 représentations, allez.
Ouais. Oui, oui, mais après l'humour, je sais plus qui disait ça, mais c'est quand même la politesse du désespoir. C'est-à-dire que
oui, mais au moins, t'as la forme qui te fait une espèce de petite balustre qui sépare du vide.
Ben non, mais c'est sûr, moi sur scène, je parle de viol et de violences faites aux femmes. Bon, je fais rire, mais parce que si je jouais au premier degré, je supporterais pas.
Ouais, bah oui.
Ouais, je pourrais pas. Voilà, donc c'est pour ça que le truc de l'acteur, c'est vrai que c'est plus chouette de regarder des acteurs qui sont plutôt que des acteurs qui font.
Ouais.
En tant que spectateur, tu veux dire, bien sûr, moi aussi j'aime les gens, je trouve que ça prend mieux la lumière la vraie souffrance,
mais je comprends ce que tu veux dire.
À jouer, ça dépend de dans quel état t'es, quoi.
Ouais.
Mais alors ce que j'avais adoré, c'est que justement aussi c'est que il n'y avait pas de mélange. Alors bon, tu vois, c'est vrai que bon, il y avait là quand même le mois où on était à poil, mais
il y a revient assis,
non, mais il y avait vachement
c'est
de...
le fil conducteur.
Non, mais même si on allait
c'est tout ce que j'ai retenu, moi.
Même si on allait loin, tu vois, dans les émotions, les trucs, tu vois, comment déclencher tout ça, il y avait un truc de vachement balisé. C'était que moi j'ai jamais vu de confusion. T'es sur le plateau, il se passe ça. Quand tu sors, on arrête, quoi.
Ah oui.
On mélange pas. D'ailleurs, moi, je me souviens d'une actrice qui avait une petite notoriété, mais qui était vraiment cinglée.
Isabelle Huppert.
Non. non.
Qui est venue avec nous.
Non, mais qui a fait un mois, mais elle arrivait sur le plateau comme elle est débarquée. Toi, c'était un peu était cinglée. Enfin, cinglée. Je sais pas pourquoi, mais. Et en fait, elle arrivait pareil que quand elle était arrivée dans le truc, elle ressortait, elle était toujours dans les mêmes
états. Oh, il n'y avait pas de scission.
Et là, en fait, là, tu dis, ah oui, d'accord, là, tu mélanges tout, la vie, le plateau, le truc. Et que Pygmalion, même si on allait loin des moments, dans, tu vois, même aller chercher, moi, je me suis construit vraiment en tant que comédien. Donc, j'ai découvert des choses de moi. J'ai toujours senti, en tout cas, je l'ai appris en balisant les choses, quoi.
Eh ben c'est là-dessus qu'on s'arrête.
C'est vrai?
Oui.
Bah non,
mais
eh ben si.
C'est trop cool.
Ah bah oui, mais ça va vite. Hein. Écoutez,
ah bah oui, quelle heure il est là.
Oh c'est
là
pas
là
tout,
là.
Mais.
Mais la semaine prochaine, on se retrouvera pour les bonus.
On se retrouvera la semaine prochaine pour le bonus avec Julie, évidemment.
Eh oui.
Est-ce que t'as des actualités?
Alors en ce moment, bah non, mais j'écris beaucoup justement. Je suis en création en ce moment, donc j'écris beaucoup. Donc c'est de l'actu, mais qui n'est pas une actu.
Ouais.
Donc
ton spectacle peut-être, bah, il tourne un peu.
Non, mon spectacle là, je l'ai arrêté.
Okay.
Donc il est que sur ma canal. Sinon, je vais faire la mise en scène d'une pièce à Avignon sur l'autisme,
d'accord.
Mais très marrante, toujours. Et là, voilà. Bah,
et
là,
j'ai des films qui sortent.
Non. Là, j'ai une comédie d'action. On a l'intérêt sur le canal et on est en train de caster là.
Ça
c'est
marche.
Le gros moment pour monter le financement.
Il y a François qui est dispo. Voilà.
Nu. S'il y a une scène de nu, je suis là.
Je viens jouer avec
que
plaisir.
Non, je viendrai nu.
Merci François.
Tu pourras la mettre cette phrase, ouais.
Je viendrai nu. J'en fais une citation, quoi.
Merci Ramzi.
Merci Juliette Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt
pour le bonus.
Bonus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.